Bonjour à toutes et à tous, 59e numéro de Mémoire à Véronès sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Je te demande pas si ça va parce que ça s'entend.
Je suis un peu enroué. Alors, tu sais ce qu'on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil.
Oui.
Et en mai, pareil. En tout cas pour ça de mai. Donc voilà, je suis désolé chers auditeurs, j'aurai une voix un petit peu plus grave et un petit peu enrouée. Alors je vous rassure, j'ai fini ma puberté il y a déjà longtemps.
C'est bon, c'est pas la mue.
Voilà, c'est pas la mue, non, c'est pas la mue.
Bon, au programme de cette émission, Vincent, et je rappelle d'ailleurs aussi que tu es président du comité Rodez 12 souvenirs français, au programme de ce 59e numéro de Mémoire à Véronèse, tu nous avais annoncé il y a 2 semaines qu'on allait s'intéresser justement à la période de la résistance. On allait revenir, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas traité.
Oui, les deux chroniques du mois de mai sont sur la Seconde Guerre mondiale. Oui.
Et en particulier un acte de bravoure, de courage.
Oui, d'un homme, oui.
Ouais. Du côté de Pont-de-Salard.
Du maire de Pont-de-Salard.
Voilà.
Ouais, nous allons voir ça. En fait, donc, comme promis, il y a 15 jours, je vous ai parlé de Pierre Monteil,
oui,
le fondateur du Maquis Jean-Pierre. Et nous allons rester aujourd'hui dans l'année 1944. Et donc, comme tu viens de le dire, nous allons partir pour la région. Alors, pas forcément que Pont-de-Salard, mais aussi la région, on va le voir,
ouais.
De Pont-de-Salard. Alors, nous sommes dans la soirée du mercredi 28 juin 1944. Un groupe d'une vingtaine de FTP, les maquisards communistes,
francs-tireurs et partisans,
ouais, du maquis de Coudols se sont regroupés dans la ferme de la Combarelle à Reyret, sur la commune de Prades de Salard, pour passer la nuit dans le foin d'une grange.
Mm-hmm.
Le lendemain, le jeudi 29 juin, à 5h du matin, après un rapide petit déjeuner, le groupe se déplace de plusieurs centaines de mètres pour s'arrêter dans un virage de l'ancienne route de nationale 111, la route Rodez-Millau.
Ouais.
Alors, cette route, bien sûr, existe toujours,
oui.
Mais ce qui est surprenant, quand on connaît les lieux, ce n'est plus la même route.
Ah, il y a des...
Ils ont, en fait, la route actuelle est beaucoup plus en hauteur que l'ancienne route.
Dans sa totalité ou par morceau.
Mmh. Et alors là, ce fameux virage de la région de Reyret,
ouais.
C'est impressionnant parce que on a la place de passer une voiture.
Ouais.
Et quand on pense que c'est une route nationale, la route principale Rodez-Millau, ouais. Quand t'as ça en tête, c'est vraiment amusant, c'est vraiment impressionnant.
Ouais.
Alors, leur mission et de couper la ligne téléphonique aérienne Rodez-Montpellier et d'attendre l'arrivée d'une équipe allemande de réparation.
Oui, pour à mon avis, pas pour leur offrir des fleurs.
Non. En fait, l'équipe de réparation devait venir réparer donc cette ligne téléphonique,
ouais.
Et eux donc avaient prévu de leur tendre une embuscade,
ouais, oui.
Afin de s'emparer de leur véhicule,
ah.
Et surtout de s'emparer de leurs armes et des munitions.
D'accord, oui.
Je rappelle, les communistes en Aveyron, la résistance communiste en Aveyron n'avait pas le droit de recevoir de parachutage d'armes parce
que des Anglais et des Américains.
C'est ça.
Parce qu'ils avaient peur.
Les communistes aveyronnais étaient réputés comme étant trop ultra-communistes,
ouais.
Et les alliés et même le général de Gaulle,
ouais.
Avaient peur que en fait, avec toutes ces armes, ils essayent de prendre le pouvoir une fois le départ des Allemands.
Et
justement, c'est ce qui a failli arriver. Donc le seul moyen pour eux de pouvoir récupérer des armes, en fait, c'est d'aller les chercher à la source, ouais, de faire des embuscades pour essayer de prendre les armes. Alors, l'emplacement de l'embuscade est choisi au milieu d'un virage, avec d'un côté une grande montée à travers bois et de l'autre un fossé en pente qui se perd dans les champs. Donc un lieu, en plus, vraiment un virage en épingle, un lieu pas mal pour une embuscade. Après avoir coupé la ligne téléphonique, les maquisards s'installent et prennent leur position d'attaque derrière des talus ou de grosses pierres. Les grenades sont disposées par terre autour d'eux, prêts à l'emploi, et les armes sont dirigées en direction de Millau.
Mmh.
Enfin, une camionnette arrive après quelques heures d'attente. Mais, en fait, manque de bol, elle arrive en direction de Rodez,
dans
le dos des maquisards.
Oui, oui,
donc,
oui.
Ils sont un petit peu perdus, il faut se repositionner.
Mmh.
Il s'agit d'un véhicule civil qui a été réquisitionné par l'occupant avec son propriétaire pour leur servir de chauffeur. Le conducteur est forcé de s'arrêter devant un barrage de branches et de pierres installé par les maquisards pour bloquer la route. Les résistants ouvrent le feu et le combat s'engage.
Mmh.
le feldwebel, c'est-à-dire l'adjudant, qui lui appartenait à la Feldgendarmerie, la gendarmerie de campagne de l'armée allemande, qui commandait le détachement et qui était situé dans la cabine à côté du chauffeur et tué sur le coup.
Ouais.
Les 6 ou 8 Allemands qui se trouvaient à l'arrière de la camionnette sautent et se mettent à l'abri pour répondre au tir.
Mmh.
Un jeune maquisard d'origine polonaise monte à l'arrière du véhicule et réussit à capturer un fusil mitrailleur, ce qu'on appelle une MG.
Ouais.
MG-34 ou MG-42, suivant le modèle. Il y retourne une seconde fois de trop,
ouais,
pour rapporter en fait des munitions qui se trouvaient, qui étaient restées en fait à l'arrière du camion.
Uh-huh.
Ça lui sera fatal. Il est tué sur le coup d'une balle à la tête qui, d'après ce qu'on m'a raconté, le décalote complètement.
Ouais, ouais.
D'après les témoignages, on voyait, voilà, on voyait la cervelle. Il s'appelait Eugène Sobski, alias Marius.
Mm-hmm.
Quelques minutes plus tard, un autre Polonais est blessé par le ricochet d'une balle allemande qui s'est fichée dans sa face.
Oh ben.
Lui va s'en sortir, il est juste blessé.
Ouais, ouais.
Voyant leurs deux camarades à terre et le combat tournant à l'avantage des Allemands, les maquisards prennent la fuite en emportant le blessé. Une fois le danger écarté, les Allemands font demi-tour et se rendent à la gendarmerie de Pont-de-Salars pour soigner leurs blessés. À peu près au même moment, Jean Amans, qui est à la fois le docteur et le maire de Pont-de-Salars, circule à moto dans les environs de Reyret pour faire des visites chez ses patients. Il est arrêté sur la route par deux maquisards qui l'ont reconnu. Il lui demande de les suivre dans une ferme de Reyret dans laquelle ils avaient laissé leurs camarades blessés.
Ouais, pour soigner, oui.
Le docteur Amans lui prodigue les premiers secours et s'en retourne continuer ses visites. Après une bonne journée de travail, il rentre chez lui pour dîner en famille. Enfin. Tu sais, c'est des journées, même les docteurs à l'heure actuelle, c'est des journées vraiment à rallonge. Tu pars, il fait pas jour, tu rentres, il fait plus jour. Il est 20h quand son fils aîné, âgé de 9 ans, vient le prévenir qu'un grand nombre de véhicules allemands passent devant la fenêtre. Quelqu'un frappe violemment à sa porte et entre sans y être invité. Il s'agit du lieutenant Bodger de la Gestapo. Il est très énervé et hurle que le village est entièrement encerclé par ses hommes. Il donne l'ordre au maire de rassembler tous les habitants de Pont-de-Salars sur la place de l'église d'ici 20 minutes. Et que passé ce délai, il fera tirer sur toute personne qui n'aura pas rejoint le groupe. Donc tu vois, ça rigole pas. Surtout qu'en plus, c'est la Gestapo. C'est un personnage qui est connu. Donc on sait la Gestapo ce que ça peut faire.
Ouais.
L'orage gronde et le maire va prévenir la population sous une pluie battante, aidée par les gendarmes et le pharmacien. Plus de 300 personnes, hommes, femmes, malades, vieillards, enfants et nourrissons, sont ainsi rassemblés sur la place de l'église sous la menace des armes. Le lieutenant Bodger donne l'ordre au maire de faire aligner tout le monde en deux rangs, le dos tourné vers les maisons, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Le lieutenant de Gestapo demande à Monsieur Amans s'il y a des juifs cachés parmi les habitants. Oui, la triste question fatidique de la Gestapo. Le maire jure que non, alors qu'il y a parmi eux un médecin juif, sa femme et ses enfants qui se sont installés incognito, ou presque, puisque le maire lui était au courant, à l'hôtel des voyageurs. Ils ne sont pas découverts et bien heureusement, ils ne sont pas dénoncés également. Donc, ils s'en sortent. Une douzaine de jeunes garçons, proches de la vingtaine, sont alors... La vingtaine, 20 ans, hein,
ouais.
sont alors choisis parmi les hommes et vont constituer un groupe à part. Le lieutenant Bodger se met à hurler qu'une chose très grave vient de se passer. Un sous-officier allemand a été tué dans la matinée par les maquisards à 200 mètres du village et que si, dans 20 minutes, personne ne donne le lieu où se cachent ces terroristes, le village de Pont-de-Salars sera entièrement brûlé. Le maire essaie de parlementer et dit au lieutenant que l'adjudant n'a pas été tué à 200 mètres de Pont-de-Salars, mais à 8 kilomètres. Il le prie de vérifier auprès des gendarmes qui sont alignés avec les hommes. Et il lui explique qu'en fait, ils ont reçu, ces gendarmes, la visite de ces Allemands qui s'en retournaient après l'accrochage avec les résistants. Le chef de la brigade de gendarmerie confirme et explique au lieutenant ce qui s'est exactement passé en indiquant sur une carte le point exact où l'adjudant a été tué. Rien à faire, l'officier allemand ne veut rien entendre. Il regarde sa montre sans cesse et en décompte les minutes restantes avant la fin de l'ultimatum. Mmh. Il augmente encore la pression en disant qu'il a des ordres et qu'il va les exécuter si personne ne livre les maquisards. Le maire s'avance vers Bodger et lui dit, alors je le cite, « Je suis le chef responsable de la commune, le bourgmestre, c'est-à-dire le maire en allemand. Hein, tu sais, ils aiment bien tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est... donc il fait esprit de dire qu'il est le bourgmestre. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne sais pas où est le maquis. Je me porte garant de l'innocence de tous mes administrés. Prenez-moi en otage, faites de moi ce que vous voudrez, mais ne mettez pas le feu au village. » Donc c'est quand même courageux.
Ouais.
L'officier refuse et renvoie le maire dans les rangs en annonçant qu'il ne reste que 2 minutes. Le maire ne se démonte pas et lui dit qu'il est un officier et qu'en tant qu'officier, il doit se comporter en homme d'honneur et ne pas commettre l'irréparable. Les 20 minutes sont à présent terminées et Bodger ordonne que les hommes soient alignés contre le mur de l'église. Tout le monde s'attend à un massacre, les femmes se mettent à prier. Dans le garage Capoulade, qui est tout proche, les soldats allemands allument des torches. Pas bon signe. Hein.
Non.
Les villageois pensent que c'est la fin pour eux et pour leur village. En plus, une mitrailleuse est mise en batterie à côté d'eux.
Ah oui, donc
plus ça va, moins ça va.
Ouais.
Bodger ordonne à présent au maire de faire ouvrir la porte de l'église pour y mettre les femmes et les enfants. Tout le monde se souvient de l'affreuse description du massacre d'Oradour-sur-Glane avec les femmes et les enfants qui ont été brûlés vifs dans l'église, à peine quelques jours auparavant. C'était le 10 juillet 1944, donc tu vois, vraiment quelques jours avant. Heureusement, le maire n'a pas la clé et il explique que c'est le sacristain qui les a et qu'il habite en dehors du village. Monsieur Hamans supplie l'officier de renvoyer les femmes et les enfants chez eux. Sur ordre, alors je sais pas pourquoi, 2 soldats allemands lance des fusées éclairantes rouges et vertes.
Ouais.
Est-ce que c'est pour donner un signal, tu vois, aux Allemands qui sont
autour,
Ouais. Pourquoi pas.
Ouais.
Un tri est fait, encore une fois, et 5 jeunes hommes sont mis à part. Bodger appelle un gendarme. Ils montent tous les deux dans une voiture et celle-ci s'éloigne aussitôt. L'attente est vraiment insoutenable. La voiture revient au bout d'une heure. Je peux te dire que une heure, dans des circonstances comme ça, ça doit paraître beaucoup, beaucoup plus long. Bodger en descend, toujours accompagné de ce fameux gendarme. Il avance et se plante devant le maire en lui disant « Vous avez 5 minutes pour rentrer chez vous. Dans 5 minutes, on tirera sur toute personne qui se trouvera dans la rue. »
Donc c'est beaucoup mieux. Tout le monde rentre à la maison, vite fait.
Extrêmement soulagé, c'est ça. Les villageois ne se font pas prier.
Ouais,
tout le monde rentre chez eux, chez lui, vraiment très très rapidement.
Ouais.
Sauf les 5 jeunes qui ont été mis de côté, qui eux sont gardés en otage. Donc le maire rentre chez lui. À 1h du matin, toi c'est pas encore terminé, une estafette frappe à sa porte et le conduit au café Bernat, où l'attend le colonel allemand qui commande la garnison de Rodez.
Ouais, ouais.
Très correct, il l'informe des décisions qu'il vient de prendre. Alors, les décisions, les voici. L'école du village est réquisitionnée pour loger des militaires qui seront chargés de contrôler à l'avenir la Nationale 111.
Ouais.
Il est interdit de sortir après 21h sans une autorisation spéciale. Et toute personne va avoir l'obligation d'être muni en permanence de sa carte d'identité. Le maire demande la libération des 5 otages. Le colonel refuse, mais il le rassure en lui disant, en lui donnant sa parole en fait, que ils seront bien traités. La colonne allemande quitte enfin Pont-de-Salars pour se diriger vers le hameau de Reyret à la recherche de ce fameux groupe de maquisards. Le lendemain, le vendredi 30 juin, Monsieur Hamans se rend au siège de la Gestapo de Rodez, au numéro 23 de la rue Grandette, pour connaître le sort des otages. Il est reçu par le lieutenant Bodger, tu vois, maintenant ils se connaissent bien, hein, après tout ce qui s'est passé la veille, donc en personne, qui est vraiment très très correct avec lui. Il lui explique que la Gestapo n'a plus les otages et qu'ils ont été incarcérés à la prison de Rodez avant d'être remis au service du travail obligatoire. Ils partiront fin juillet vers l'Allemagne et ses usines d'armement. Mmh. Après la guerre, les 5 otages, donc ils sont partis au STO, rentreront sains et saufs chez eux.
C'est bien, bonne nouvelle, oui.
Donc tu vois, de cet épisode, tout est bien qui finit bien.
Voilà.
Enfin, plus ou moins, puisqu'il y a quand même 5 qui ont été déportés au travail. Mais voilà, pas de victimes. Mmh. Et pas de maison brûlée.
Voilà, il a sauvé son village, tout à fait. Maire.
Alors, il y a 15 jours, je ne sais pas si tu te souviens, mais le jour même où est passée la chronique, je venais avec le maire de Rodez, de remettre la médaille de la ville de Rodez à mon grand ami Fernand Grimal.
100 ans.
100 ans, voilà, qui est le dernier résistant de ce maquis de Coudols et un des tout derniers résistants aveyronnais. Donc lui a fêté ses 100 ans le 13 mai dernier. Eh bien, en fait, il s'agit de son histoire, puisqu'il faisait partie de ces fameux maquisards qui ont attaqué la camionnette de Rayrit.
Ah ouais, dingue.
Voilà. Chaque année, en fait, nous allons avec Fernand fleurir la stèle de Rayrit et les autres stèles des morts du maquis de Coudols. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois, tu vois, à 99 ans, puisque on l'a pas encore fait cette année, j'attends la date avec impatience. Il nous raconte chaque fois, on prend du temps. Ouais. Il nous raconte chaque fois. À chaque stèle, qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment extraordinaire. Mmh. Alors, en fait, pour préparer cette chronique, je me suis servi des mémoires que le docteur Amans a écrit lui-même et au sujet de cet événement. Mmh. Voilà, il existe un petit opuscule vraiment qui est très très détaillé, où il explique tout minute par minute. Donc, ça a été un régal pour moi de lire ça et de préparer avec ça cette chronique. Si vous avez aimé cette aventure, je vous conseille, je vais faire un petit peu de pub, je vous conseille d'aller voir la très très belle pièce de théâtre qui a été écrite par Jean-Louis Courtial et qui sera jouée à Pont-de-Salars tout juste 80 ans, jour pour jour, après les faits, les 28 et les 29 juin prochains, sur la place même où les villageois ont été réunis en cette terrible nuit du 28 juin 1944.
Ouais, et on en reparlera sur CFM de ce spectacle et de cette commémoration. Cet anniversaire, les 80 ans.
Tout à fait. Et alors, encore un petit coup de pub, donc on en reparlera aussi. Mais j'ai pas les dates exactes, mais la dernière quinzaine du mois de juin, je présenterai une exposition sur la résistance en Aveyron avec des mannequins, des objets, des documents, tout d'origine, à cheval, puisque les deux salles sont côte à côte, à cheval dans la médiathèque et l'office de tourisme, justement, de Pont-de-Salars. Alors, je voudrais remercier un ami qui se reconnaîtra, mon ami Nico, qui ne loupe pas une chronique de mémoire aveyronnaise, qui est vraiment un fidèle parmi les fidèles.
C'est bien.
Et je voulais le remercier parce que le montage que vous pourrez voir en podcast, le montage photo, qui représente une carte postale ancienne de Pont-de-Salars, une vue d'ensemble, c'est lui qui a découpé et qui m'a rajouté dessus la photo, moi j'ai l'original, la photo de deux soldats allemands qui étaient en garnison à Rodez. Voilà, c'est lui qui a fait ce très beau montage photo. Donc Nico, merci beaucoup et continue à écouter Mémoire Aveyronnaise.
Et la photo à voir pour le podcast sur le site cfmradio.fr. Très bien, bravo Vincent, merci à toi pour cette émission notamment et cette histoire qui s'est bien terminée à Pont-de-Salars fin juin 1944 et son maire héros hein.
Ah oui, tout à fait.
De la Seconde Guerre mondiale. Oui, merci beaucoup, Vincent. On se retrouve dans 2 semaines.
Oui, écoute, dans 2 semaines. Alors, pour changer un peu, je vais vous parler d'un personnage aveyronnais que j'aime vraiment beaucoup, qui est un personnage très attachant. Je vous parlerai de la très grande sainte aveyronnaise, Mère Émilie de Roda.
Ah oui, d'accord.
Bah, écoute, la fondatrice de la Sainte Famille.
Bon, bah avec plaisir.
Entre autres.
Bon, parce que moi, ça me dit quelque chose comme don, mais à part ça, je sais rien. Donc tu vas tout m'apprendre.
Oui.
Merci beaucoup, Vincent.
Ben merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.